bienvenue dans l'émission. Je vais au ciné. Aujourd'hui, nous avons Mickaël avec nous.
Bonjour.
Bonjour Mickaël. Et nous avons notre ami Antoine qui nous a rejoint. Moins fort, d'accord. Aujourd'hui, on va parler, enfin, on va faire comme d'hab. On va d'abord lancer la chronique, on va mettre une petite pause musicale. Après, on va mettre une interview de Boris Lechkine pour le film Camille. Donc, je vous parlerai un petit peu avant de lancer ses commentaires. On fera une petite pause et on parlera des films sortis récemment, tous ensemble et dans la bonne humeur et dans tout ça. Donc aujourd'hui, mon cher ami Antoine, tu vas nous parler de quelque chose. Mais avant, j'ai toujours une petite surprise pour mes chroniqueurs. Et bah la voici.
Dans ce film, le héros meurt au début et des journalistes décident d'enquêter sur ses dernières paroles. Comme dans Citizen Kane. J'appelle ça du plagiat.
Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler, de luge et de tronçonneuse, c'est ça?
Alors oui, Maloud, tu as raison. Alors paye ta référence. Après un gros clin d'œil à Guillermo Guise dans ma première chronique, en voici un autre pour Pablo Mira. Auditeur d'Inter, tu es aussi chez toi sur Studio Zef. Alors Sébastien, ton lancement était plutôt obscur.
Oui.
Et je pense que les gens n'ont pas compris tes références. Quand tu écris pour les auditeurs, il faut être limpide. C'est ton premier lancement, tu vas y arriver. Je te fais confiance. Classé comme le meilleur film de tous les temps par quelques institutions, le film en question date de 1941. Auditeur, amateur de robots reste, la suite de la chronique pourrait t'intéresser. Auditeur d'énergie, tu es aussi ici chez toi sur Studio Zef. Il s'agit donc, comme on l'a pu entendre dans le son, de Citizen Kane d'Orson Welles. Tourné à 26 ans, pour un premier film, il réussit un coup de maître. Tout est étudié jusque dans les moindres détails, les décors, le cadrage, le travail sur le clair-obscur, il n'y a pas de mouvement de caméra inutile. Si la maîtrise de la technique est épatante, il ne faudrait pas en oublier la narration.
Ah, mais qu'est-ce qu'elle a cette narration?
J'y arrive, mon loup. Mais tout d'abord, l'histoire. Au début du film, le richissime homme d'affaires Charles Foster Kane meurt seul dans son château appelé Xanadu. Juste avant de mourir, il prononcera un dernier mot, Rosebud, bouton de rose en français. Un journaliste qui ne sera pour nous qu'une silhouette car il ne sera jamais filmé, il sera toujours dans l'ombre, va enquêter sur le pourquoi de ce mot mais surtout sur sa définition. Le squelette du scénario est assez basique. On suit l'ascension fulgurante du personnage devenu richissime suite à un héritage qui va gravir rapidement les échelons de la société pour se retrouver très vite au sommet. Mais qui, à trop vouloir tutoyer le soleil, va se brûler les ailes et dont la chute sera d'autant plus brutale que son ascension aura été fulgurante. Avant de revenir à la narration du film, je voudrais vous faire une aparté sur l'un des personnages réels ayant servi de source d'inspiration pour la création de Monsieur Foster Kane, Monsieur William Randolph Hearst, qui, si pour nous Français ne nous parle pas, a été aux États-Unis d'Amérique un personnage éminemment important dans la vie politique du pays.
Ton accent me laisse sans voix.
Ouais, bon, c'est travaillé. Hein. Des années de cours d'anglais.
Hein. Ah ouais, ça se sent.
Ouais, mais bon, là, allemand, hein, ça va.
Ma prof, si tu m'entends. Il posséda à un moment une très grande partie des journaux du pays et lorsque le film sortit, il s'en servit pour monter une campagne de presse dénigrant le film, ce qui participa à son échec dans les salles. Comme M. Kane, M. Hearst s'est fait construire un château qui se visite, le Hearst Castle. Il se trouve sur la côte californienne entre Los Angeles et San Francisco. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, je vous le conseille, c'est impressionnant et la piscine extérieure de style romain est grandiose.
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir plus de droits d'auteur?
Ouais. Enfin, y aller, c'est quand même pas à côté.
Alors, l'originalité du film à l'époque est qu'il est raconté à base de flashbacks, car tous les protagonistes arrivent au bout de leur vie. Et lorsque le journalisme les interviewe, ils se souviennent. Alors, oui, maintenant, c'est devenu monnaie courante, mais à l'époque, ça a eu un côté révolutionnaire. Franchement, malgré l'aura du film d'Orson Welles, qui est écrasante, je pense qu'en 2019, peu de personnes l'ont vu. Et je vous le conseille fortement, car il reste malgré tout facile d'accès. Sa narration est très fluide, et surtout, on a vraiment envie de connaître la définition du mot « Rosebud ». Bon, maintenant, je vais tenter un grand écart à rendre vert de jalousie de M. Jean-Claude Van Damme. Faisons un bond de 72 ans dans le temps pour nous retrouver en 2013.
Ah, tu vas nous parler du loup de Wall Street.
Calme tes ardeurs. Non, je vais vous parler d'un autre film qui suit le même processus narratif. À la place de suivre un mania de la presse, nous suivons trois perdants plutôt bas de plafond. Eux aussi partent de très bas, n'iront pas bien haut, mais cela ne les empêchera pas d'avoir une chute brutale. Ah, là je vois Mika sur son téléphone chercher le film de 2013 auquel je fais référence.
Non, j'ai trouvé.
Il a trouvé. Allez, on arrête le suspense. Son réalisateur est au cinéma ce que Hans Zimmer est à la musique, c'est-à-dire un mal nécessaire.
Oh 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 oh.
Allez, arrêtons le suspense. Musique, maestro. Tout le monde se met debout.
La main sur le cœur, bien sûr.
La main sur le cœur. Je vous demande d'accueillir Monsieur Michael Bay avec Pen and Game.
Ah ouais, super.
Ouh, joie.
Désespoir surtout.
Grand écart réussi. Auditeur de France Culture reste. Déjà, par respect pour l'éditeur d'énergie qui est resté durant la première partie de la chronique, et sache que toi aussi tu es ici chez toi. Alors oui, j'ose dire, Pen and Gain et Citizen Kane sont à mes yeux les mêmes films. Je vois déjà certains lever leurs bras au plafond en s'exclamant « Mais comment osent-ils, ils blasphèment, brûlez-le » pour être honnête, si je les trouve très proches dans leur structure narrative, ou dans leurs enjeux, dans leur forme et ce qu'ils représentent pour le cinéma, ils sont chacun d'un côté de l'échelle. Il est tout aussi facile de pourrir Monsieur Bay pour son côté régressif que d'encenser Monsieur Wells pour l'intelligence de ses œuvres. Tu veux des plans ostentatoires ou des ralentis qui ne disent pas grand-chose et qui sont juste là pour claquer, tu en as. Tu veux aussi des mouvements de caméra des plus prétentieux, tu en as aussi. Monsieur Bay, dans son genre, maîtrise très bien son style, autant que le spectateur. Ah. Attendez, c'est mon téléphone qui sonne. Je reçois un SMS de mes collègues de l'émission Au fil des bobines. Alors je vous le lis. Vraiment trop bien Michael Bay. Son chef-d'œuvre, c'est Bad Boys 2. À quand une rétrospective au lobbies? Hashtag Romain, t'es source à nos appels. Le message est lancé.
Bah, alors, je demanderai à Romain la prochaine fois que je le vois. Ouais.
Alors, auditeur, si tu es comme j'ai pu l'être, à segmenter, à hiérarchiser les films, à démonter n'importe quel blockbuster américain ou à censer n'importe quel film d'auteur, laisse tomber, ça ne t'avance à rien et c'est surtout contre-productif. Le plaisir du spectateur peut se nicher autant dans du Wells que dans du Bay. Et comme dirait la Maxime, qu'importe le flacon tant qu'il y a l'ivresse.
D'accord. Bah, je vois pas le rapport avec les luges et les tronçonneuses, moi.
Pour ça, je vous laisse voir le film. Je vous laisse voir les films.
Ah, les films, carrément. Tout ça.
Et oh, bah... l'escroc. Cette fin d'escroc.
Bon, bah, là-dessus, on va avoir une chronique assez intéressante sur Citizen Kane et d'autres films. Alors, cette semaine, on va avoir Halloween qui va se profiler. Alors, je me suis dit, je vais prendre quelques musiques en rapport. Donc, on va avoir la musique de Danny Elfman pour Beetlejuice. Voilà, et on va écouter. Alors, on va déjà, je vous parlais de Camille, et puis on va écouter une interview de Boris Lochkine. Alors, Camille, de quoi ça parle ? Bah, ça parle d'une photojournaliste qui s'appelle Camille Lepage. Je vous le dis tout de suite, tout net, maintenant. Camille Lepage est décédée en Centrafrique, et ça nous parle de son aventure en Centrafrique où elle suit les anti-Balaka. Alors, dès le départ, on vous met l'ambiance, on vous montre dès le départ qu'elle va mourir. On vous le cache pas, c'est une histoire vraie. Après, il a créé des personnages qui sont fictifs autour, mais l'histoire globale de ce qu'elle a vécu, on le voit dans le film. Il s'intéresse pas à sa mort, mais il s'intéresse à son reportage, finalement, à ce qu'elle a découvert là-bas, à elle. Pas au photojournalisme, pas que au photojournalisme, parce qu'elle a sa propre vision du photojournalisme. Donc, il nous parle pas ni de sa mort, ni de qu'est-ce qu'un photojournaliste. Il nous parle de la Centrafrique et de ce qui s'y passe à ce moment-là. Alors, ça se passe à la fin 2013 jusqu'en mai 2014. Et ça nous parle de...
C'est un documentaire ou c'est un film ?
C'est un film qui s'appuie sur des faits réels. C'est-à-dire que Camille Lepage est vraiment décédée en Centrafrique. Le personnage de Camille est réel. Les personnes qu'elle rencontre sont tirées de gens qui existent, mais sont modifiées. C'est-à-dire que lui, le réalisateur, il est parti là-bas pendant 2 ou 3 ans avant, où ils ont travaillé un petit peu avec les gens locaux pour faire des films, pour lancer le cinéma en Centrafrique. Donc ils ont commencé à faire des documentaires là-bas.
Je spoil peut-être, mais comment il a connu cette personne ?
Alors, en fait, il l'a découvert au moment de sa mort, et après il s'intéressait, il a rencontré la famille 6 mois après pour lui demander s'il pouvait faire un
D'accord.
film, et voilà. Donc tout ça, il nous en a parlé, voilà, et puis on va vous passer l'extrait. J'en reparlerai certainement dans la prochaine mission, parce que j'ai un deuxième extrait. Et puis voilà, et puis on en reparle après, si vous voulez.
Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à l'histoire de Camille Lepage ?
Je crois que je me suis intéressé à Camille à cause de Camille, hein, parce qu'elle a quelque chose de très spécial. C'est qu'à la fois, en faisant ce film, je fais un film sur une profession, sur les photojournalistes. C'est aussi l'occasion pour moi de raconter un conflit africain. Et les deux choses me trottaient dans la tête depuis un petit moment. J'avais envie de faire un film sur les reporters de guerre. J'avais aussi envie de faire un film sur un conflit africain. Mais parfois, on a des envies et puis ça reste derrière et on n'en fait rien. Et donc c'est vraiment Camille qui m'a donné envie. C'est-à-dire que et quand je dis Camille, c'est pas la mort de Camille, parce que des journalistes qui se font tuer, il y en a plein chaque année. Mais parce qu'elle a quelque chose de spécial et quelque chose de spécial dans lequel je me suis beaucoup reconnu. C'est-à-dire que Camille, c'est Camille Lepage, c'est donc une journaliste une photographe qui ne voulait pas être une photographe de guerre, qui le professait vraiment comme une profession de foi. De dire qu'elle ne voulait pas être une photographe de guerre. Par photographe de guerre, je pense qu'elle entendait quelqu'un qui va de conflit en conflit, qui est aujourd'hui en Centrafrique, demain en Ukraine, après-demain en Irak, puis en Syrie, puis en Birmanie, puis etc., qui tourne comme ça et qui arrive 15 jours dans un pays pour saisir des clichés, puis qui part ailleurs. C'est quelqu'un qui avait envie de vivre quelque chose avec les pays dans lesquels elle travaillait, qui avait envie d'arriver à partager quelque chose avec les populations sur lesquelles elle travaillait, et pour ça, casser un certain nombre de barrières. Et ces barrières, on les sent très fort en Centrafrique. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé en Centrafrique, c'est cette barrière très forte, noire, blanc, riche, pauvre, qui est vraiment très très forte, que je pense qu'il y a peu d'endroits au monde où on sent aussi fort cette barrière, où on sent aussi fort une situation... une situation néocoloniale que dans ce pays-là. C'est vraiment quelque chose que je trouve très frappant. Voilà, et donc Camille, c'est quelqu'un qui a envie de casser ses barrières, d'aller au-delà et qui est dans cette quête de quelque chose de l'humanité. C'est ça qui m'a touché.
Et pendant tout le film, en tout cas, moi, mon expérience de visionnage, c'était on a envie de dire, mais mets de la distance un peu, là, tu t'impliques trop, là, tu... C'est vrai que c'est ça aussi, c'est peut-être cette distance qui lui manquait, justement, parce qu'elle voulait pas être reporter de guerre, mais du coup, aider. Et vraiment faire en sorte que ça aille mieux, sauf que c'est pas le rôle d'un photographe de guerre, peut-être.
Ouais, mais c'était pas une photographe de guerre.
Ouais.
Et je suis pas d'accord avec toi, en fait. Non, c'est bien de pas être d'accord, en fait. Oui, mettre de la distance, c'est le conseil, c'est un petit peu le conseil de base du journalisme.
C'est ce qu'arrivent à faire notamment ses camarades qu'elle rencontre à une partie du film, qui eux semblent absolument blasés, ils sont sur cette guerre-là, ils pourraient être une autre guerre. Enfin, ils arrivent totalement à prendre à prendre du recul pour voir la politique derrière, ce qu'elle, on a l'impression qu'elle a un peu du mal à faire ou à envisager.
Oui, mais c'est pour ça que je fais un film sur elle et pas sur eux. Et que eux, ils m'intéressent moins. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve admirable chez elles, c'est que même justement dans la fin du film, c'est que même ayant traversé, parce que cette période centrafricaine pour elles, ces mois de décembre, notamment décembre 2013, mois terrible, très dramatique, très sanglant, voilà, où elle fait des photos au coude à coude avec les autres journalistes, et où elle fait vraiment du news à ce moment-là. Ce mois-là, pour elle, il est très, très terrible, très traumatisant. Elle traverse quelque chose qui pourrait la faire changer. Et moi, ce que je trouve assez admirable dans son parcours, c'est justement, à la fois, ça la fait changer, puisqu'elle trouve une réponse au problème que ça lui pose, mais ça lui fait pas perdre quelque chose de cette naïveté qui, pour moi, n'est pas péjoratif, en fait.
Parler beaucoup plus de barrières. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu cette barrière-là ? Ça consiste à quoi exactement ?
C'est ce que j'appelle barrière. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je suis ici en France, je n'ai pas le sentiment en permanence d'être blanc et qu'il y a une différence entre blanc et noir. Oui. Quand je suis en Centrafrique, tout me renvoie à ça. Et je pense, parce que la Centrafrique est un pays très pauvre et très peu développé, qu'il n'y a pas en Centrafrique une classe moyenne urbaine. C'est très choquant, hein, quand on arrive là-bas, de voir les expats blancs dans leur 4x4 et qui vivent dans leur résidence entourée de hauts murs et de barbelés, et la population noire très pauvre. C'est ça que j'appelle une... Voilà, il y a une sorte de fossé énorme que je pense que heureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est plus comme ça. Mais le pays est tellement peu développé qu'on reste dans une situation qui est très violemment coloniale, en fait. Mm-hmm. Malheureusement, la Centrafrique n'a cessé de s'appauvrir depuis les années 80, et l'État n'a cessé d'entrer dans une déliquescence, et les professeurs, les personnels de santé, l'armée même, sont de plus en plus mal payés, ce qui fait que tous les corps de l'État, en fait, sont en pleine déliquescence. C'est ça qui est terrible dans ce pays.
Donc nous revoilà.
C'est pas gay tout ça.
Non, c'est
pas vraiment.
Gay. Non, c'était un conflit important et puis ça fait beaucoup de morts et le film est pas simple à voir. Je vous le conseille, mais c'est pour un public plutôt averti. C'est un film de guerre, hein, globalement. Donc voilà. On s'écoute un petit truc plus cool, plus sympa, plus.
Le petit bonhomme en mousse.
De quoi ?
Le petit bonhomme en mousse, un truc.
Non, pas trop.
Des sardines.
Non, non plus.
Ah, oh, c'est quoi ce sectarisme ?
Non, on va s'écouter Godzilla de Blue Oyster Cult, puisqu'on reste dans le.
Oh, la nouveauté.
Ouais, c'est très très récent.
Ouais,
c'est très récent. We'll be right back. Donc nous revoilà, et puis on va parler de, des sorties récentes en DVD ou pas, ou les derniers films qu'on a vus. Est-ce qu'Antoine, tu veux parler...
Tu sais qu'on est à l'époque du Blu-ray.
Oui, au Blu-ray, au DVD, à ce qu'on veut, le VOD, peu importe. Les supports physiques ou pas physiques, on s'en fiche. Est-ce que tu veux nous parler d'un film, Antoine ?
Alors, je vais vous parler 30 secondes, parce que j'estime qu'on n'est pas là pour ça, de Joker. Non, mais je veux dire, de toute façon, tout le monde, ceux qui veulent le voir l'ont déjà vu. Et
ceux qui l'ont pas vu,
le verront pas.
Pas envie de le voir.
Moi, j'étais en étant positif, j'avais envie de le voir, parce qu'à la limite, dans le monde du super-héros, l'univers de Batman est peut-être celui qui m'intéresse le plus, et le Joker, je trouve, encore plus. Alors déjà, un, le Joker sans Batman, ça marche pas. Franchement, c'est
son némésis. Ouais.
Oui, mais justement, tout seul, moi, je trouve que ça marche pas. Le réalisateur, c'est quand même celui qui a fait Very Bad Trip. Ben,
c'est d'une qualité de réalisation.
Non, mais c'est ça, non, mais c'est ça, ouais, il n'a pas le talent. Tout le monde se pâme sur le jeu de c'est Joaquin Phoenix. Pourtant, j'adore cet acteur, mais là, il n'a qu'une expression. Il rigole, il ricane, on ne sait pas trop pourquoi.
D'accord, enfin, si, on sait pourquoi.
Non, mais oui, sous prétexte qu'il est fou, mais... s'il est méchant, c'est que les autres sont méchants. C'est assez, je trouve, assez basique comme façon de voir le personnage.
Ouais, et surtout qu'il a plein de facettes, le Joker.
Et je sais que tous les cinéastes s'inspirent d'autres cinéastes. Donc, ce que je veux dire, c'est peut-être un peu facile. Mais regardez Taxi Driver parce que c'est exactement la même chose.
C'est ouais, pas... mais il rigole pas tout le film hein, dans Taxi Driver.
Non, mais bon, il est aussi malade. Il est tout seul. Enfin, je veux dire, il a un problème avec les autres. Tu retrouves, ça se passe à New York. C'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est un peu trop pompé. Non, moi, je voulais parler d'une découverte. Donc,
attends, est-ce que je peux faire l'avocat du diable pour Joker. Alors, Joker, je l'ai vu aussi.
Bon, c'est bon. T'as assez parlé. Maintenant, c'est à moi. t'as eu la parole. Voilà.
Ouais, j'ai aligné trois mots.
Donc moi, je vais vous parler des crevettes pailletées.
Attends deux minutes.
Alors franchement, je te trouve très dur pour ce film. Alors, de mon point de vue personnel, c'est pas un chef-d'œuvre. Je pense qu'il est un petit peu surcoté ce film. Voilà. Mais après, c'est mon avis personnel. Après, je ne trouve pas le film mauvais. Clairement, il y a de bonnes idées. On est bien. Moi, je trouve que le réalisateur retranscrit bien l'ambiance. Il arrive à nous faire croire à un New York des années 70.
Oui, sauf que le problème, c'est que Gotham, c'est pas New York. Tu vois, c'est là.
Ils sont inspirés de.
Ouais, mais Gotham City, c'est New York, en fait.
Oui, mais non, parce que dans les Batman, tu prenais les Batman de Tim Burton. Effectivement, tu voyais clairement l'inspiration, mais malgré ça, ils développaient une propre architecture.
Ouais, mais c'est pas pareil, parce que si tu compares Batman de Tim Burton, qui est le réalisateur de L'Étrange, il se place de stricto sensu dans un univers fantasmagorique. Ouais. Et là, on est sur une lecture réaliste du personnage. Donc forcément que ça n'a rien à voir. En fait, les deux n'ont rien à voir, ne jouent pas sur le même terrain, n'ont pas le même but. Je voulais pas le voir ce film parce que je voyais comme tu disais je voyais pas l'intérêt de faire un film Joker sans Batman. Après, que ce soit le personnage principal du film, ok si tu veux, mais je voyais pas l'intérêt. Et forcé de constater que devant le film, à ma grande surprise, le film se tient. Franchement, le film se tient. Je trouve qu'il faut le voir avec du recul parce que mine de rien, quand on est habitué à une certaine violence dans les films de super-héros, mais cette violence elle est quelque peu aseptisée dans le sens où on sait que c'est un film de super-héros, on sait que c'est pas crédible, on sait que c'est pas réaliste, donc on prend une certaine distance par rapport à la violence qu'on voit dans les images. Tandis que là, c'est tourné sous un angle tellement réaliste que je trouve qu'on ne ressent pas la violence pareille. C'est ça que j'ai le plus ressenti en voyant le film Joker. Je me suis pris la violence de ce film, la violence qui est plus psychologique que physique, en pleine tronche.
Oh, franchement...
Franchement, ouais. Franchement, ouais.
J'ai... En physique, ok, la scène finale, mais bon, y a des, le mental, y a des trucs que j'ai... la folie n'est pas du tout expliquée. Il est fou dès le départ.
Oui, mais oui, oui. Mais donc... après, c'est le concept du... Enfin, voilà, il voulait rester, je suppose, il voulait rester sur le côté un petit peu mythologique du Joker. À force de tout vouloir expliquer, le personnage devient pas intéressant.
Il y a plusieurs explications.
C'est ça.
Plusieurs,
c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Du Joker.
Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, j'ai quand même apprécié le film, pour moi surcoté, mais très franchement, il ne mérite pas un statut de mauvais film comme ont pu le... Il ne mérite pas de se faire descendre comme il a pu se faire descendre par certaines
critiques. Autant descendre parce qu'il se fait aussi beaucoup encenser. Enfin, je veux dire,
oui,
enfin,
ouais,
moi j'ai
là,
vu des critiques positives, je me dis, ben, on n'a pas dû voir le même film. Enfin,
ouais, mais on est dans de la posture. Là, pour prendre par exemple, je les aime beaucoup, hein, Le Masque et la Plume, mais alors clairement, je les ai trouvés absolument pas objectifs. Bon, d'accord, une critique, c'est forcément subjectif, mais alors là, franchement, Pierre Murat qui balance Joaquin Phoenix, c'est pas en perdant 30 kilos que t'as du talent. Non, Joaquin Phoenix, il a du talent, il a plus à prouver.
Ouais, mais pas dans ce film, enfin, franchement.
Moi, je trouve que c'est
bon,
peut-être
bah, c'est
pas
mon moment,
Joker.
T'as parlé, maintenant tu te tais.
Non, il... Ouais, ma parole est brimée, je tiens à le signaler, hein, que ma période est brimée parce que je ne défends pas une position populaire, c'est inadmissible.
Alors, je voulais vous parler d'un film sorti en VOD, c'est un film qui est sorti au ciné en début d'année, ça s'appelle Les Crevettes Pailletées.
Ouais, j'ai vu ce film et ça, sortir
et ça,
ça, a été trop
une, ça a été une réelle surprise en fait parce que j'avais regardé la bande-annonce et la bande-annonce présume du pire en fait. Enfin, je me suis dit on va se retrouver avec un film à la Philippe Lachaud, genre épouse-moi mon pote, où tous les clichés sur l'homosexualité allaient être
développés dans ce film.
Et on s'excuse auprès de tous les auditeurs fans de Philippe Lachaud au passage.
tous les gags allaient être éculés.
Ouais. Oui, on a compris.
Excellent.
Et en fait, pas du tout. Et on se retrouve en plus à traiter de la natation. Donc fin 2018, il y avait le Grand Bain qui était sorti. Donc on s'est dit, mince, ça sent l'opportunisme à plein nez.
Et des en fait, films sur la natation, on en a quelques-uns aussi.
Oui, mais là, il y a
plus ou moins.
Oui, mais en 2018, il y a le Grand Bain qui a quand même marqué. Donc même.
Ouais, mais il l'a lancé avant. Enfin, je veux dire, un film, ça se lance pas en.
Oui, oui tout
un
à fait. Oui, mais en tout cas, voilà, la sortie fait que, effectivement, peut-être s'il a été lancé avant, il sort après. Donc. Et en fait, c'est franchement bien. C'est une espèce de. Je tentais un mariage, c'est un mélange entre effectivement le Grand Bain et 120 battements par minute en fait.
Comme j'ai vu aucun des deux, je vais pas pouvoir t'aider.
Et non, mais c'est les personnages au final rigolent, c'est une bande d'ados. Hein. Alors c'est vrai que c'est l'homosexualité un peu vue de manière cage aux folles. Quand ils sont ensemble, ils sont tous. C'est des ados, c'est des grands ados, mais par contre, les personnages sont traités intelligemment et on arrive à sortir. Des clichés que la bande-annonce montre. Donc, si vous avez l'occasion, regardez-le. C'est à la fois rigolo, émouvant. Alors, j'ai peut-être pas parlé du scénario. Donc, en fait, après une défaite d'une compétition, un nageur professionnel donc, qui s'appelle Mathias Le Goff, qui est joué par Nicolas God, c'est un acteur de série, qui va s'énerver face à un journaliste qui l'interview et va tenir des propos homophobes. Et pour le punir, en fait, la fédération de natation va lui demander d'aller entraîner une équipe de water polo, donc des bras cassés, hein, qui doit se qualifier pour les gay games. Alors ça fait rire, mais en fait, c'est tiré d'une histoire vraie. Et en fait, donc, le personnage principal s'appelle Mathias Le Goff, et c'est un film qui est co-réalisé avec donc, Cédric. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est une histoire qui est inspirée du réalisateur, en fait.
D'accord.
Qui s'est retrouvé lui-même dans une équipe de water polo gay et il devait aller jouer à ces jeux-là, en fait.
D'accord.
Et franchement, le film est beaucoup plus... alors, je pense que je l'ai très mal vendu, là. Mais le film est beaucoup plus rigolo que la bande-annonce le laisse présager.
Il est drôle et bienveillant.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il est drôle et profond. Ouais. Non, ce serait dommage de passer à côté.
Ok. Bon, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir Mika, au revoir Antoine et à la prochaine.
Au revoir.
À bientôt.